Bonsoir Pénélope Bagieux.
Bonsoir.
Alors je vous prie de m'excuser, j'essaye d'imiter la voix de Jeanne Moreau en ce moment. Je crois que j'y parviens assez bien d'ailleurs. Nous sommes avec vous pour La Nuit Retrouvée que vous avez co-signé avec Lola Lafont aux éditions Gallimard BD. Si je vous dis le mot foyer, qu'est-ce que vous voyez immédiatement graphiquement?
Foyer?
Oui.
Bah du feu. Le foyer d'une cheminée. Parce qu'en ce moment j'ai froid tout le temps, donc je pense plutôt à une cheminée.
D'accord. Mais
j'imagine que c'était plus dans le sens d'une maison.
Non, c'est dans le sens de ce que vous voyez.
Bah, vraiment, je vois une cheminée alors.
Ah, très bien. Ouais. D'accord. Alors du coup, maintenant pour la maison, ce serait quoi?
Si vous me dites le mot maison.
Ouais. Quelle pièce en premier?
Et bah, du coup, le salon, mais c'est par association d'idées parce que je viens de parler d'une cheminée.
D'accord.
Ouais. Du coup, pour la thérapie, c'est pas génial parce que je
pas. Ah ouais. Comment fonctionne votre cerveau visuel quand vous travaillez? Est-ce que les mots renvoient tout de suite à des images? Est-ce que vous voyez les mots en images dans votre tête?
Est-ce que je vois les mots en images? Par exemple, donnez-moi un exemple. Donnez-moi un
par
mot,
exemple, foyer, est-ce que vous voyez un feu de cheminée ou est-ce que vous voyez le mot foyer écrit?
Je vois le mot foyer écrit.
D'accord.
Ouais. Ouais, je me suis jamais posé la question, mais oui.
Donc c'est dans un deuxième temps que vous cherchez à le représenter?
Oui, tout à fait.
D'accord. Et pour ce travail-là, comment est-ce que vous avez fonctionné avec Lola Lafont?
Alors, pour ce travail-là, Lola m'a donné un texte qui était comme une courte nouvelle. Et en la lisant, je voyais des scènes plus que des images. Et je voyais une mise en scène, je voyais des dialogues, je voyais... Voilà, quand la phrase était « Ses enfants la taquinent en général sur le fait qu'elle est trop prudente ». Moi, je me disais « Ah ben oui, il va y avoir une scène où son fils, il va lui dire tel truc, etc. » Je pense plus en scène et en mise en scène et en dialogue qu'en dessin, vraiment. D'ailleurs, dans ma tête, ils n'avaient pas de visage, les personnages, jusqu'à très très tard. Je ne pensais pas du tout à la tête qu'ils allaient avoir, ça n'avait pas d'importance.
Donc en fait, on pourrait dire que c'est le mouvement d'abord qui démarre votre travail?
Le mouvement et les dialogues. En fait, la mise en scène. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus, donc c'est à ça que je pense en premier. Et ensuite, je cherche comment remettre par écrit cette petite scène qui est dans ma tête.
D'accord. C'est rigolo que vous parliez de scène. Moi, en démarrant ce livre... La première scène, qui pour moi est donc une scène de cuisine, je la trouve extrêmement théâtrale. Est-ce qu'il y a un lien avec votre travail?
Certainement, parce que justement, parce que je pense pas en images, que j'ai cherché les décors après, mais que je savais, j'imaginais le rythme, j'imaginais la porte qui claque, le tiroir qui s'ouvre, les trucs de « Ah, pousse-toi, passe-moi le sel », voilà, moi je pense à ça. Et après, je me dis « Ok, maintenant que j'ai cette petite scène de poupée dans ma tête », qui jouent ensemble et qui se parlent. C'est vraiment jouer à la Barbie dans ma tête. Et après, je me dis, OK. Et alors maintenant, cette cuisine, elle ressemble à quoi? Eux, ils ressemblent à quoi? Mais ça revient vraiment en deuxième. Et c'est un deuxième plaisir qui est encore autre chose. Mais disons, chronologiquement, dans ma tête, c'est d'abord une mise en scène qui, effectivement, est peut-être plus proche du théâtre que du cinéma. Ouais.
C'est rigolo que vous parliez de l'enfance. Parce que alors, ça aussi, c'est une réflexion que je me suis faite. Dans ce livre, il y a un travail très intéressant sur ce que nous figeons de notre enfance dans la maison familiale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces enfants qui sont très grands, qui vont dialoguer avec leur mère dans ce livre, on a l'impression que pour eux, la maison ne change pas, ne bouge pas. Il y a quelque chose de l'enfance que vous nous racontez comme quelque chose qui laisse les parents à un âge, comme si quoi, ça bouge plus, c'est fini, il y a une époque... Et c'est comme si elle ne changera pas.
Je pense que c'est le propre des maisons de vacances dans lesquelles on a des souvenirs immuables tous les ans, dans lesquelles on a vu nos parents être jeunes, dans lesquelles on se souvient où est-ce qu'il y a une cachette, où on a mis un truc et où est-ce qu'il y a une marche qui grince dans l'escalier, on sait laquelle c'est. Et que du coup, elles sont totalement intemporelles et que quand on y est, on a tendance à être de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais on a gardé nos habitudes d'enfant, on a gardé notre place à table, on prend toujours la même chambre. C'est difficile de casser les habitudes d'un endroit dans lequel on a été enfant ou dans lequel on a été petit. Alors peut-être que c'est quelque chose qu'ont aussi les gens dont les parents n'ont jamais déménagé et qui retournent chez leurs parents. Moi, ce n'est pas mon cas, on a déménagé 2000 fois. Mais le seul endroit pour moi qui a toujours été un peu pareil, c'est quand j'allais chez mes grands-parents. Donc c'est la maison qui est dans le Pays Basque, en plus, d'où le fait que c'était très clair pour moi à quoi elle ressemblait la maison, ça c'était pas du tout un sujet. Je savais qu'est-ce qu'il y avait comme pierre par terre, il y avait la... je savais ce qu'il y avait accroché au mur, enfin c'est la maison de mes grands-parents. Donc peut-être que c'est le fait que Lola ait dit dès le début, ça se passe sur la côte basque, qui a fait que pour moi c'était un non-sujet, à quoi allaient ressembler les choses. C'était évident que j'allais aller me servir de ma maison à moi, de la région, de la végétation, de tout ça.
Parce que vous aviez en commun la Côte Basque ?
Exactement. Lola voulait que ça se passe là parce qu'elle y a passé une partie de son enfance et de son adolescence. Elle a grandi, je parle pour elle. Elle a grandi en Roumanie, mais ses parents l'emmenaient l'été en France à Osgore, Cap Breton, je ne sais plus par là. Et donc pour elle, l'histoire se passait là. Et puis en plus, elle voulait que ce soit une histoire qui se passe là à cause du championnat de surf. Donc voilà. Et quand moi j'y suis allée pour dessiner, c'est marrant parce que je n'ai même pas fait le lien avant d'y aller quand même. Donc très intéressant aussi en psychanalyse, je pense. Mais je me suis dit pourquoi pas, très bien, allons-y, allons à la découverte de cette région. Et puis une fois que j'y étais, je me dis ah ben oui, mais j'y ai passé toute ma vie en fait. Et
ah oui, effectivement.
Et je me suis dit bah oui, bien sûr, les maisons, je vois très bien à quoi elles ressemblent, et la bouffe, et les odeurs, et les hortensias, et l'océan. Et en fait, je connais par cœur. Donc c'était très facile à dessiner et très agréable. Et puis je pouvais y mettre tellement de souvenirs, tellement de... C'est plus facile de dessiner la tendresse et la douceur quand c'est dans un lieu qui nous évoque effectivement la tendresse et la douceur. Je pense que si j'y étais allée en reportage total, si ça se passait en Picardie, par exemple, j'ai rien contre la Picardie, mais j'ai vraiment zéro souvenir. Alors que là, c'était vraiment du... C'était vraiment faire des petites finalisations de souvenirs très précis dans ma tête.
Alors, c'est vraiment marrant que vous disiez ça. À nouveau, j'allais vous demander comment on fait pour dessiner la tendresse, puisque ce livre, il est plein de tendresse.
Merci. Alors, je suis contente d'avoir réussi, du coup. Mais en aimant nos personnages, de toute façon, c'est la clé. Pour qu'on ait de l'empathie pour des personnages, il faut simplement que les lectrices et les lecteurs les aiment. Et pour ça, et la base, c'est qu'il faut, nous, qu'on les aime en les dessinant. Donc il faut passer, en même temps on passe 2 ans avec eux, donc à la fin on est obligé de les aimer un peu, mais je pense que ça transparaît vraiment. On peut pas le faire pour de faux, parce qu'on peut pas rendre attachant un personnage pour lequel nous en tant qu'autrice on a aucun attachement. Donc je les aimais tous, même les fils qui sont agaçants, enfin un des deux surtout. Je voulais quand même qu'on l'aime bien, même si on a un petit peu envie de lui mettre des claques aussi, mais je voulais qu'on l'aime un peu quand même.
Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez cette maman?
Oh, bah, elle, vraiment plein de choses, mais j'aime qu'elle soit pleine de surprises. J'aime que malgré la case dans laquelle la vie, ses enfants, tout essaye de l'enfermer, elle est pleine de ressources et elle est plus complexe que ce qu'on croit. Et puis j'aime ses côtés mamounette. J'aime qu'elle elle remette son gilet tout le temps et qu'elle demande qu'on appelle et qu'on laisse sonner 2 fois quand on est bien arrivé. Malgré tout, c'est quand même une petite mamounette.
C'est quand même une déclaration d'amour aux mamans, ce livre.
Alors, c'est une déclaration d'amour aux femmes, hein, plus qu'aux mamans, parce que elle est une femme aussi. C'est-à-dire qu'on a bien compris que c'était une maman, on l'a bien compris, ses enfants, tout le monde ne lui parle que de ça. Mais c'est une déclaration d'amour à la femme qui est aussi dessous, et à sa fille, et au troisième personnage féminin. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu. Donc voilà, c'était plutôt à ces 3 femmes-là qui forment un tout, je trouvais assez beau.
Ce qui est intéressant, c'est que cette maman, vous nous la présentez aussi donc, dans sa jeunesse. On la voit à plusieurs âges, en tout cas à 2, de façon importante. Et votre livre suscite une question pour toutes les lectrices, qu'elles soient plus jeunes ou plus âgées, à se demander si nous sommes pluriels ou si nous sommes la même, à glisser vers autre chose selon le temps. Cette thématique-là, vous vouliez vraiment l'aborder avec Lola Lafont. De quelle façon ?
J'adore les histoires qui font des sauts dans le temps, parce que j'aime bien qu'on puisse mener son enquête et comprendre quelles sont les racines de quelque chose. Et on rentre de plein fouet dans cette scène de cuisine avec cette famille qui a des dynamiques très évidentes. On voit qui est qui dans cette famille. Et donc, je trouvais ça rigolo de se dire, mais du coup, il y a 20 ans, ils étaient comment, ces gens-là ? Et qu'on voit qu'il y a déjà la graine de tout ça, que sa fille, qui est la grande sœur, c'est déjà sur elle qu'elle compte pour être un peu son lieutenant. Avec les petits, elle lui dit « Je compte sur toi, occupe-toi de tes frères. » Et il y a déjà un sentiment de colère et d'injustice chez sa fille qui dit « Mais j'ai pas du tout envie de m'occuper de mes frères. Ils me font chier. » Enfin, et où elle est complètement débordée, mais en même temps, elle a à cœur de tout faire très très bien. Et ça se prolonge, puisque 20 ans plus tard, elle est toujours... C'est devenu le sujet de moquerie de ses enfants, qui disent « Ah là là, maman, il faut toujours que tu penses à tout. Ben, » Oui, parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'elle est bien obligée de penser à tout. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que rien n'arrive par hasard et qu'effectivement, sans rester quelqu'un de complètement monolithique, ben oui, en fait, tout a quand même des... Tout est assez cohérent. On ne devient pas une personne complètement différente au bout de 20 ans. On est, malgré quelques petits virages, en tout cas dans la case dans laquelle on est dans une famille. Je pense qu'on a tous un rôle dans notre famille. On est celui sur qui on peut compter, ou alors on est le rigolo, ou on est celui sur qui, au contraire, on peut pas du tout compter, et tout le monde le sait, et qui se met juste les pieds sous la table. Enfin, tout le monde a un rôle dans une famille, et c'est très très dur de sortir de cette case-là, même si on a très envie d'en sortir. Je pense que je connais, enfin, c'est des conversations que j'ai eues avec plein de gens, mais de se dire, c'est marrant, dans ma famille, on pense toujours que je suis la même personne qu'à 20 ans. On va dire, oui, mais alors toi, je sais pas quoi, tu vas... De toute façon, tu arriveras forcément en retard. Et où les gens disent, mais vraiment, ça fait 20 ans que je suis à l'heure, en fait. Arrêtez de toujours avoir vos archives qui datent d'il y a 20 piges, j'ai changé. Mais dans les familles, on change pas, en fait. On est, tu connais ton frère, toujours en retard. Et donc ça, je trouvais ça marrant aussi de mettre ça en scène.
Et vous êtes qui, dans la famille ?
Alors du coup, j'y ai réfléchi. Moi, je suis la deuxième. Dans une famille où on n'est que deux, donc je suis la petite. Donc déjà, je suis la petite pour toute ma vie. C'est pas, je n'ai pas d'âge. Et
Pratique.
Et alors maintenant, avec le temps, je suis à la fois la petite, donc on me préserve quand même des choses. C'est-à-dire, on va pas embêter ta sœur avec ça. Puis en plus, moi, je suis un peu l'artiste en plus, donc je cumule. Faut pas. Tu sais comme elle est, c'est une artiste. Mais j'ai l'impression qu'on compte un peu sur moi aussi pour être marrante. Voilà, c'est-à-dire quand c'est un peu plombé, on se dit « Alors Pénélope, qu'est-ce que tu nous racontes ?» Voilà, un peu là pour un peu ça aussi. Mais je pense que le rôle de ma grande sœur n'est pas très marrant non plus. Elle est la responsable, puisqu'elle est ma grande sœur. Donc voilà, de toute façon, enfin, je pense qu'on a tous un peu ce truc-là, quoi. On a sa place et puis on l'a longtemps.
Je parlais tout à l'heure de tendresse pour cette maman. Effectivement, il est question des femmes, mais quand même, moi en tout cas, je l'ai lu comme ça. Je trouve que vous avez vraiment une façon de faire une belle déclaration aux mamans, à la charge mentale qui va avec ce rôle de mère, en tout cas aussi d'une époque où c'est une maman qui dit à ses enfants, tout le monde porte ses affaires et c'est elle qui porte tout. Donc il y a quand même de l'importance dans votre récit et dans votre écriture. Du poids, de la charge et du dévouement.
C'est difficile de raconter les vacances d'une femme qui est seule avec trois enfants sans évoquer la logistique et la gestion que ça représente et la place que ça prend et comme ça écrase tout le reste jusqu'à un certain point, puisque malgré ça, elle va avoir un soubresaut de vie et se dire il y a quelque chose de plus fort encore qui me fait briser l'interdit absolu qui est ne pas faire passer mes enfants au premier plan à un moment, mais quand même, ce serait mal raconté cette histoire, je pense, de pas avoir mis l'accent là-dessus aussi. C'est son premier été seul avec des enfants. Bon, bah, ça va quand même être ça le gros de son actu. Ça va être s'occuper de ses enfants, mais j'aimais bien le raconter du point de vue aussi un peu des enfants pour qui tout ça est totalement invisible. C'est-à-dire, quand on est enfant, on est le personnage principal de tout. Et on ne se dit pas, si justement la Faustine, sa fille, a maintenant l'âge qu'avait sa mère quand elle l'a eu, et donc elle se refait le film en se disant, ah, mais attends, en fait, ça devait être quand même compliqué. Et sa mère lui dit un peu, mais sinon, elle se souvient d'enfance et c'est toujours Max qui avait le jouet dans les céréales. Elle se dit pas, mais quand j'y pense, mon père était pas là, et voilà. Donc, je trouvais ça marrant aussi, ça de se dire, bien sûr que ça prend toute la place dans la vie de sa mère. Mais elle, il faut attendre qu'elle approche la trentaine pour qu'elle ait la présence d'esprit de se demander ce que c'était d'être sa mère. Jusque-là, elle se souvient simplement que les vacances, c'est rigolo. Et tant mieux, on a un temps dans notre vie où il faut cette insouciance. Et évidemment que quand on est enfant, heureusement que tout n'est pas parasité par le fait de se dire oh, « ma pauvre mère qui fait à bouffer trois fois par jour ». Enfin, mais j'aime bien ça, les questions qu'on se pose quand on a l'âge qu'avaient nos parents à différents moments de la vie, à se dire... Déjà, se dire, est-ce que c'était si bête ce qu'ils ont fait ? Finalement, c'était pas si bête ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils avaient le choix ? Et donc, j'aimais bien cette conversation qu'elles ont, qui va durer un peu toute la nuit, comme ça. Petit à petit, elle va enlever des couches au récit tout fait de sa mère et se dire, mais c'est peut-être plus... peut-être que ma mère est une personne.
Ce qui est intéressant, c'est de le mettre en parallèle avec le surf, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans spolier et raconter l'histoire. Il y a donc d'autres personnages qui sont en lien avec le surf, qui incarnent aussi une certaine forme de liberté. Et donc, le lien entre les deux, en fait, est d'une grande force quand on lit votre texte. de montrer qu'on peut avoir choisir une autre forme de vie. C'était aussi ça, le choix du surf.
Alors, le plein air, la liberté. Le choix du surf, c'est parce que Lola est une dingo de surf. Il faut D'accord. savoir que ça faisait partie de l'histoire depuis toujours et qu'elle était très vigilante sur quel type de surf.
Ok.
Ouais, non, ça rigole pas.
Même sur le dessin ?
Pas sur le dessin, mais par exemple, quand elle me dit j'aimerais que la surfeuse, ce soit ce genre de surf qu'elle pratique. Voilà. Surf radical.
Ok.
Vraiment très, très
pointu. Il y a plusieurs surfs.
Il y a plusieurs surfs. Ouais, ouais. Moi aussi, c'était. Elle était très vigilante sur plusieurs choses. Il y avait le fait qu'il y ait le chien. Ça, c'était très important, le chien.
Pourquoi ?
Que ce soit un braque, parce qu'elle adore les braques.
Ah.
Ouais, un braque, pas un autre chien. Et le surf. Et plus sérieusement, le surf, pas uniquement parce qu'elle est fan de surf et qu'elle a vu beaucoup de compétitions et qu'elle adore ce surf, ce sport, mais aussi parce que, effectivement, c'est un sport qui a plusieurs, on va dire, intérêts en termes de narration. Déjà, c'est une petite personne qui va affronter un grand mur d'eau et qui risque sa vie, donc c'est quand même assez intéressant. Et c'est un sport qui est très peu télégénique, il y a beaucoup d'attentes. C'est très... Je m'en suis rendu compte en regardant le surf au JO pour faire la BD. Et... c'est beaucoup juste attendre, en fait, hein, quand même, de regarder ça. Donc c'est ça. Ouais. On peut pas dire, et maintenant, c'est l'action. On se dit, ah, ben, peut-être que ce sera dans une demi-heure. Donc il y avait ça, ce qui monte beaucoup aussi dans la BD, c'est qu'elle-même va voir une compétition et se retrouve dans la même situation que moi. C'est de dire, au bout d'un moment, excusez-moi, on attend quoi, en fait ? Parce que c'est très, très long. Il faut savoir saisir la vague au bon moment. Enfin, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et puis, par rapport à toute la liberté de cette surfeuse, évidemment, qui est la femme la plus cool du monde. C'est une championne de surf. On peut pas faire plus cool qu'elle, évidemment. Mais n'importe laquelle d'entre nous se dirait « Oh là là, j'ai l'air si nulle à côté de cette femme qui est extraordinaire, qui risque sa vie comme ça. » En plus, elle est cool, elle est stylée. Bon, tout le monde a envie de l'approcher. Mais voilà, elle va aussi révéler à Hélène que c'est pas si simple en fait d'être une sportive de haut niveau, parce que même en étant une des plus grandes athlètes du monde, on est soumise à des injonctions visuelles de il faut quand même être mignonne, parce que c'est vrai que dans le surf, les surfeuses qui sont mignonnes et avec un physique plus qui rentre dans les cases, on va dire, ont plus de sponsors, ont plus d'intérêt de la part de la presse que celles qui sont vraiment très très bonnes techniquement, parce que ce qu'on veut avant tout quand même, c'est qu'elles soient jolies à regarder comme dans beaucoup de sports, et que elles non plus font pas ce qu'elles veulent en fait, et que c'est même elles malgré tout restent des femmes et donc moins payées, moins bon, tout pareil en fait, tout pareil mais dans un sport cool. Donc ça, je trouvais ça très intéressant de le souligner aussi, que même les femmes qui évoluent dans les métiers où on a peur de rien, ben en fait, c'est quand même un peu toujours la même limonade, comme on dit.
D'ailleurs, vous lui faites dire, cette phrase elle est très intéressante, hein, symboliquement aussi, vous lui faites dire que, en fait, il faut devenir ami avec sa peur.
Oui, parce que c'est Lola qui a très bien vu ça, c'est que, en fait, apparemment, ben je ne fais que la citer parce que j'ai zéro connaissance dans le surf, mais c'est un truc que disent les surfeurs, c'est qu'il faut... On se dit, ah, ils ont peur de rien. Mais si, c'est très important qu'ils aient peur, parce que c'est ce qui va leur sauver la vie, a priori. C'est savoir quelle vague prendre, savoir comment la prendre. Ça dépend aussi de se dire, oh là là, ça, c'est une connerie, j'y vais pas. Et donc, il faut absolument bien la connaître, sa peur, et non seulement l'apprivoiser, mais ça fait partie du travail, de savoir quand on a peur. Et du coup, quand Hélène rencontre cette femme qui a l'air d'avoir peur de rien, qui la fascine complètement, elle, qui a un peu peur de son ombre, qui a peur de tout le temps, et qui lui dit « Mais alors, du coup, vous avez jamais peur ?» Et la surfeuse lui dit « Ah, mais si, bien sûr que si. Il faut avoir peur. C'est très important d'avoir peur, mais il faut apprendre à être ami avec ta peur. » Et ça va complètement lui faire une épiphanie de « C'est donc ça que font les autres gens. » Et elle va en parler avec son chien, d'ailleurs, le soir même, en lui disant « Tu savais, toi, qu'il fallait être ami avec sa peur. » Voilà.
Et vous, est-ce que vous êtes ami avec votre peur ? Est-ce que ça fout la trouille de faire des livres ?
Ah non, alors faire des livres, ça fout pas du tout la trouille. C'est le truc le plus réconfortant du monde. Non, ça fait pas peur. Moi, je fais un métier de planqué parce que, en fait, faire des livres, c'est quand même être chez soi, en pyjama, avec ses chats, et dessiner, en écoutant des podcasts. Le danger est limité. Et après, on va voir des gens qui aiment nos livres. Voilà. Moi, je ne vais pas les vendre au marché à des gens qui ne savent pas qui c'est, à qui je dis « s'il vous plaît, regardez, c'est sympa ». Moi, je suis en super zone de confort. Je pense que là, par exemple, il n'y a pas de gens qui me détestent. Il peut y avoir au pire des gens qui ne savent pas du tout qui je suis, et c'est super cool, mais il n'y a pas de gens qui disent « ah, justement, je vais y aller, est-ce que je ne peux pas la blairer ?» Voilà, moi, je suis très, très peu confrontée à des gens qui me veulent du mal, par exemple. C'est plutôt cool.
Vous voulez dire que dès le début, en commençant à faire vos premiers dessins, vous n'avez pas eu la trouille de les présenter à quelqu'un, de les montrer à un éditeur? Non, vous n'avez pas la trouille.
Je dirais que ça fait partie. En fait, il y a vraiment deux joies différentes. Il y a la joie de créer les livres, qui est extrêmement égoïste, et c'est moi toute seule. Et je m'en fous complètement du reste du monde, et heureusement, parce que pendant que je suis en train de les faire, faut pas que je pense qu'il y a des gens qui vont lire. Et je suis contente, comme si j'avais 3 ans et demi, en train de faire mes dessins dans ma chambre. Ça dure pendant 2 ans, c'est génial. Et après... Ah, c'est long, hein. C'est un métier, faut être patient quand même. Mais j'adore, donc ça me dérange pas d'y passer 2 ans, et de passer toutes mes journées à faire ça. Et après, c'est fini, on est triste parce que c'est fini, une petite dépression, mais après, le livre sort, et on se dit, ah mais oui, c'est la deuxième partie, c'est l'autre truc que j'aime vachement aussi, c'est voir des gens qui lisent mes livres et qui les trouvent bien. Et ça, c'est super, et même s'ils les ont pas trouvés bien, je caricature un peu, c'est voir des gens qui me diront, j'ai compris ce dont tu parles. Moi aussi, je ressens ça. Et moi aussi, je suis comme toi. Et on a un petit fil, on se comprend. On se comprend, en fait. On se fait un petit clin d'œil mental de se dire pareil. Et on fait, ah, génial, super. C'est l'autre joie. Mais elles ne sont pas très, très corrélées. C'est-à-dire que je ne pense pas à ces gens-là pendant que je suis en train de dessiner, donc ça va. Sinon, ce serait horrible et je ne pourrais rien faire. Bien sûr, à chaque trait, je me dirais, oh, c'est trop moche, c'est trop moche. Mais en fait, je pense que tous les gens qui écrivent, ou qui créent d'ailleurs, peut-être, sont très, très forts pour faire semblant qu'il n'y a personne qui va regarder ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon, on est comme tout le monde, on n'y arriverait pas.
Et là, la connivence, particulièrement dans ce livre-là, la connivence que vous créez, elle est dans un endroit un petit peu particulier qu'on aime beaucoup, c'est le secret.
Bah, y a plein de choses avec lesquelles j'espère que ça peut résonner chez les gens.
Ah oui, plein.
J'espère.
Mais il y a quand même une petite connivence sur... la part de ce qu'on n'a pas forcément envie de raconter à tout le monde.
Ouais, c'est vrai. Il y a ça, il y a le fait de se dire... parfois, on a envie de raconter des choses qui peuvent être comme un secret, mais on pense que les gens ne sont pas prêts pour l'entendre, ne vont pas bien le recevoir. D'ailleurs, au début de l'histoire, elle a envie de raconter son histoire, même si c'est un peu maladroit. Mais sur ses 3 enfants, il y en a 2 qui s'en foutent et qui s'en vont. Il y en a une qui écoute d'une oreille, mais elle est à moitié sur son téléphone en même temps. C'est pas tout de vouloir dire les choses, il faut aussi être écouté. Il faut que les gens prennent la mesure que même si ça paraît insignifiant, peut-être que pour nous, ça a été une montagne. Donc, y a 2 choses qui doivent se rejoindre. J'ai envie de parler, mais il faut aussi qu'on ait envie de m'écouter. Parce que c'est plus ça, plutôt qu'un secret. C'est plutôt un... Est-ce que le moment est venu de pouvoir dire des choses qui sont pas dingues? J'ai pas révolutionné la science. Mais pour moi, ça a voulu dire quelque chose à un moment. Et en fait, j'ai pas tout dit de moi.
Il y a aussi le fait que vous dites à ce propos-là que les jeunes s'écoutent plus aujourd'hui. Vous faites dire ça à la maman. Ça, c'était important.
Ah bah, en disant ça, moi, je me mets complètement dans les chaussures de sa fille. Où il y a cette... C'est pas de la pudeur. Je pense qu'il y a une résignation et une fierté à dire « Moi, je suis pas du genre à m'écouter, je suis pas du genre à perdre du temps, à être vulnérable. » qui est quelque chose que j'observe beaucoup plus effectivement à la génération de ma mère. C'est une génération qu'on sait réticente à aller voir des psys, par exemple, ce qui fait perdre beaucoup de temps à la génération d'après, qui doit aller voir des psys pour eux, finalement. Donc, je pense que ça, on est beaucoup à connaître ce phénomène-là, de se dire, ça nous aurait tous fait gagner beaucoup de temps, n'empêche, si vous aviez été une génération qui s'écoutait un peu plus, c'est pas grave, ça fait pas de vous des mauviettes, ça fait pas de vous des gens faibles, mais il y a toute une espèce de... Oui, de fierté, je pense, mais même si c'est pas une vraie fierté, parce qu'il n'y a rien de joyeux, mais à se dire, ah non, non, moi, je me règle mes problèmes tout seul, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin que ça sorte, et où en fait, on sait très bien qui va payer les pots cassés pour tout ça, ce sont les enfants. Et donc, oui, moi, je me mets dans la peau de cette fille qui dit à sa mère, t'es sûre que ça va? Et où sa mère dit, bah écoute, oui, ça va très bien, voilà, et elle lui dit, ah, c'est marrant, ça n'a pas l'air d'aller pourtant, hein. Et où elle, sa réponse à ça, c'est, bah, peut-être que moi, je suis juste plus. Solide et que je n'ai pas besoin d'admettre que ça ne va pas. Et voilà. À plusieurs... Mon point de vue à moi, et plutôt que ce n'est pas une très bonne idée.
À plusieurs titres, c'est un livre qui parle de l'autorisation.
De complètement.
Oui.
De ce qu'on s'autorise, du feu vert qu'on attend d'autres aussi, pour s'autoriser à vivre des choses et pour admettre des choses. Et puis, je pense qu'en tant que femme, il y a... On pourrait s'autoriser beaucoup plus de choses, et parfois c'est pas des vrais interdits, personne nous empêche de faire des choses, mais on a tellement été construite dans l'idée qu'il fallait rester dans une case, que c'est déjà une très très grosse autorisation de se dire eh ben je fais bien ce que je veux. C'est pas facile, et je pense pas que ça se fait un jour, tout d'un coup on fait exploser le cadre, ça c'est dans les films, c'est génial, mais dans la vraie vie je pense que c'est des choses vraiment mineures qui paraissent rien de l'extérieur, et où nous on se dit j'en sais rien, un jour se dire, eh ben, alors ça peut paraître vraiment anecdotique, mais se dire, je me suis toujours dit que telle couleur m'allait pas, eh ben merde, en fait, je vais m'acheter un pull de cette couleur-là, je vous emmerde, et personne ne va remarquer qu'on a fait ça. Mais nous, on a l'impression d'avoir marché sur la lune. Voilà. Et ben, dans son cas, elle, elle s'est toujours dit que ce qu'il fallait qu'elle soit, c'était une mère qui a trois cerveaux et qui pense à tout. Et puis, il y a une fois où elle s'est dit, eh ben, merde, pendant 36 heures, eh ben, je vais être une mauvaise mère. Voilà. Et personne n'en est mort, personne s'en est rendu compte, ce qui est quand même assez révélateur. Mais elle, aujourd'hui, elle a besoin de dire, eh ben, tu sais, à l'époque, j'ai fait ça. Et, ça. Et elle dit à ses enfants, peut-être ça vous paraîtra rien, mais moi, c'était ça mon moment d'audace. Voilà. C'était mon audace, c'était de m'écouter moi pour une fois.
Et justement, parce que le mot audace ne vient pas automatiquement associé à la mère de famille.
Ben oui, et puis surtout eux qui lui disent, mais attends, mais toi, maman, mais c'est pas possible, mais n'importe quoi, tu ferais jamais un truc pareil. Ils la vannent tout le temps sur le fait que, de manière rigolote, mais pas tant que ça, sur le fait qu'elle est incapable de la moindre audace. Et au bout d'un moment, elle en a marre, en fait, aussi. C'est que sous couvert de ce jeu, elle se dit, bah, ah, alors, c'est qui maintenant qui est audacieuse? Et en fait, elle, quand même, elle mouche un peu sa fille quand elle lui raconte ça, parce que sa fille est bouche bée de savoir que sa mère, est capable de faire du stop. Déjà, rien que ça, c'est fou. Ma mère a fait du stop. Et puis après, tout découle de ça. Elle dit, à un moment, elle lui dit, mais ma mère écrit. Mais c'est fou, ma mère écrit. Je dis, bah oui, ta mère écrit, en fait. Ta mère ne fait pas que des lessives. En fait, ta mère fait des trucs aussi de sa vie. Et oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on imagine de nos mères. Mais a priori, en X années de vie, elles en ont fait des trucs dingues. C'est sûr. C'est pas pour autant qu'elles nous racontent tout. Et puis d'ailleurs, enfin, en tout cas, moi, c'est pas pour autant qu'on a envie de tout savoir non plus. On n'a pas envie de savoir toutes les dingueries qu'ont fait nos parents, surtout pas. Mais parce qu'en plus, ça change la vision qu'on a d'eux. Par ricochet, ça change un peu la vision qu'on a de nous-mêmes. Parce que si finalement nos parents sont pas qui on croit, alors plus rien n'a de sens. On a un peu 4 ans et demi aussi, nous, toujours à vouloir que nos parents ce soient nos parents. Par exemple, j'en ai parlé avec plein de gens du coup depuis la sortie du livre, mais on n'a pas forcément super envie de savoir quelle a été la vie amoureuse de nos parents avant d'être ensemble. C'est pas toujours un truc qu'on a très envie de savoir, parce qu'un peu toujours comme si on avait 4 ans et demi, on veut penser que l'amour de la vie de nos parents c'était eux deux et c'est tout, et qu'avant moi il y avait rien. Cette vision très enfantine de, enfin, c'est marrant, je connais des gens, ça les avait pleurer adultes de savoir que leurs parents qu'il est arrivé des trucs à leurs parents avant de se mettre ensemble, parce qu'ils avaient jamais, c'était un impensé total, voilà.
Mais c'est intéressant cette question, parce que ça va un peu plus loin dans votre livre. Quand on lit cette bande dessinée, on s'interroge un peu plus, pas seulement sur qui étaient nos parents avant, ou même pendant, sans qu'on l'ait vu ou sans qu'on l'ait su. Ça pose la question de ce qu'on a envie de voir comme visible, comme un tableau figé, comme si la famille était un lieu public. Et un lieu public n'a pas de tiroir secret, il est tellement public que c'est une vitrine. Mmh. Et donc dans votre livre, il y a ce côté, on va surtout pas déménager les meubles. Et en écho à ça, vous mettez des symboles dans ce livre qui sont des petits rituels. La tisane de la nuit calme, c'est le rituel, parce que la famille, c'est la tisane de la nuit calme. Donc évidemment qu'il peut pas y avoir bambou là, à 3h du matin, surtout avec des gens qu'on connaît pas. Mmh. Donc il y a ce côté du visible et de l'invisible qui est précieux. Pourquoi ? Pour se construire ?
Je réfléchis, mais tout ce qui est très ritualisé dans la vie d'Hélène, je vais vous avouer que je suis pas allée chercher beaucoup plus loin que ça, c'est juste moi. C'est moi qui suis comme ça. La nuit calme, c'est moi, c'est vraiment, c'est ma vie, en fait. C'est que les choses se font dans l'ordre et que je suis tellement routinière et tellement, c'est tellement... Nuit calme, ça pourrait vraiment être le nom de ma biographie, quoi. C'est moi qui me fais ma tisane et qui le commente à voix haute en plus en le faisant, en faisant une petite nuit calme. Donc j'ai mis beaucoup de moi dans Hélène. Cette femme, c'est bon. Et de dire, ah ben là non, c'est l'heure de sortir le chien, ah non, c'est l'heure de... Moi, je suis hyper rassurée par les choses ritualisées. Donc c'est marrant que ce soit ça l'analyse que vous en ayez faite. Moi, pour moi, c'est juste... je comprends comment, pour lutter contre le chaos, on ritualise tout. Je comprends que le chaos panique Hélène. C'est vraiment un truc... Après, c'est parce que j'ai mon travail et le contraire de ça, et que du coup, j'ai besoin de me cramponner à du super carré, du super ritualisé, des horaires et des trucs comme ça. ce qui fait rire les gens, voilà, qui disent « Ah ben oui, pardon, quand, je sais pas, on me propose un dîner, je dis c'est à quelle heure, et qu'on est que c'est à 9h, et que les gens sentent que je suis déjà en train de me désengager du plan, en disant « Ah ouais, non, mais parce qu'en fait, je me rappelle que j'ai un truc, et ils disent « Ah mais oui, c'est vrai, tu peux pas être en dehors de chez toi après 22h. » Je dis « Bah non, sinon je vais exploser si je suis pas à la maison à 22h, donc c'est trop tard, j'ai pas du tout envie. Enfin, cette petite dame qui remet son gilet, c'est un peu moi. » Voilà.
Et c'est un peu vous aussi dans cette histoire de vitrine, c'est-à-dire que comme vous le disiez tout à l'heure en préambule de cet entretien finalement, vous disiez on est toujours la même pour sa famille, et donc vous êtes à la fois la fille rigolote, la petite dernière et la fille qui a des rituels. Ça c'est ce que vous montrez à votre famille.
Oh là, c'est deep là, attendez. Est-ce que c'est ce que je montre à ma famille?
Allongez-vous s'il vous plaît.
Bah, je pense que dans ma famille, on m'aime et que du coup on accepte tacitement le fait que oui, il faut pas me voilà que quand je commence à dès mi-novembre à dire qu'est-ce qu'on fait à Noël et que je pense qu'ils se disent bon c'est pénible, ça va la paniquer si on n'a pas déjà réfléchi à Noël. Okay. Personne ne me le fait remarquer, mais on sait que voilà.
C'est... Ce que je veux dire, c'est que du coup vous avez déjà conscience qu'il y a toute une partie de votre vie, de votre audace, de votre imaginaire que vous ne livrez pas. Comme Hélène, vous en avez conscience?
Ben non, du coup, je le découvre. Je...
Ok. Ben donc, du coup, vous avez fait un sacré écart là, parce qu'Hélène, vous lui avez quand même filé un truc de dingue.
Ouais. Après, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Ah, voilà, c'est ça. Le pitch d'origine n'est pas de moi. Mais oui, peut-être.
Donc, finalement, Lola, c'est la façon de travailler avec quelqu'un qui vous bouscule.
J'aimais bien me reposer sur quelqu'un pour l'histoire et ne pas avoir à la questionner. Ça, je trouve ça super reposant. De ne pas me demander tout le temps, mais c'est bien ou pas, en fait? Attends, est-ce que mon histoire n'est pas un peu chiante? Et me dire, c'est pas moi qui l'ai écrite. Donc, chat perché, elle est super, j'en suis sûre. Ça, c'était vraiment très reposant et de pouvoir me concentrer sur ce que j'aime faire le plus, moi. Mais pas me questionner sur ça. C'était au contraire très reposant plus que bousculant. Moi, ça, j'ai vraiment aimé cette partie-là. En fait, je pense qu'à partir du moment où on travaille avec quelqu'un qu'on estime énormément, intellectuellement et artistiquement, c'est très reposant. Parce que même dans les moments où on n'est pas sûr des choix de l'autre, on se dit « Moi, fais-lui confiance. C'est super ce qu'elle fait, elle doit savoir. Suis-la, ne te pose pas de questions. » Donc ça, c'était vraiment super.
Est-ce que ça vous a, du coup, poussé à aller dans des endroits de dessin,
oui,
différents, nouveaux, et à réfléchir autrement?
Oui, parce que l'histoire appelait des choses... mais que j'avais identifié dès que j'avais lu cette histoire où je m'étais dit « Ah, ça va être quand même chiant à dessiner. » C'est-à-dire, je l'avais vu, quoi. Et je m'étais dit « Oui, mais justement, allez, un peu de défi, ça va pas te tuer. » Et il y avait des choses que je ne savais pas dessiner et il a fallu que je trouve comment les dessiner pour ce livre-là. Voilà. Où il a fallu vraiment que j'apprenne, où j'ai travaillé pour ça, quoi.
On peut en parler ou ça fait partie de ce qui doit rester plutôt?
Ah non, carrément, parlons-en, moi j'adore.
Non, mais je vous pose cette question parce qu'il y a une partie qu'on voudrait ne pas dévoiler.
Ah non, c'est pas... Non, c'est les vagues. Ah ouais, l'océan, c'est dessiner l'océan. C'est que... Normalement, pour moi, l'océan, c'est un arrière-plan. Donc, je vais dessiner une histoire où, à un moment, les gens vont à la plage. Super, on fout du bleu au fond. Mais là, c'est pas possible, parce que l'océan, c'est un personnage de cette histoire-là. Il est très, très important. On l'attend, on le guette, il vient pas. Tout d'un coup, il vient, il est furieux. Et puis, en même temps, c'est dans un endroit où l'océan a une place. On peut pas dessiner les Landes en ne s'interrogeant pas sur comment on va dessiner l'océan. C'est... Voilà. Et donc, j'y suis allée. Pendant longtemps pour dessiner, et j'ai passé énormément de temps. Ça, dit comme ça, on va croire que j'étais en vacances, mais pas du tout. C'était du boulot. Je me suis dit, il faut que je comprenne comment marche une vague. Donc, il faut que je la regarde jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je me dise, ouais, voilà, d'abord ça roule, après il y a la mousse, après machin. Et je suis allée là-bas et j'ai vraiment passé des heures à plusieurs moments de la journée pour que ce soit pas les mêmes, jusqu'à ce que je comprenne comment marche une vague pour pouvoir la dessiner. Voilà. Ça, c'est une très bonne technique que j'ai, que je vous offre, ce cadeau. C'est pour apprendre à dessiner un truc qu'on ne sait pas dessiner intuitivement, parce que quand on dessine professionnellement, on sait à peu près tout dessiner sans le regarder. À peu près, parce qu'on l'a en tête et qu'après, on arrive à le dessiner. Mais les choses qui ne sont pas intuitives, c'est qu'en fait, on les connaît mal, donc il faut beaucoup, beaucoup les observer. Mais si on les dessine, enfin moi en tout cas, si je les dessine pendant que je les regarde, ça ne marche pas. Il faut les regarder longtemps, 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 longtemps. Après, il faut rentrer à la maison. On oublie un peu ce qu'on a vu. Et quelques temps après, on se dit, allez, interro surprise, redessine les vagues. Et ce qu'on en a digéré, souvent, c'est bien. Voilà. À chaud, c'est toujours bien de faire du croquis. De toute façon, ça sert, mais de se dire, OK, je vais aller dessiner ma vague et c'est bon, ça sera comme ça dans ma BD. pas génial, pas très bon dessin. Regarder les vagues pendant des heures jusqu'à ce qu'on dise oui, c'est bon, j'ai compris, d'accord, ça roule. Voilà. Et après, on se dit plus tard. Et moi, j'ai gardé les scènes de surf pour la fin du livre. J'avais dessiné tout le reste. Et j'arrête pas de me dire, tu te souviens qu'à la fin, il va falloir faire les vagues. C'est bien beau de faire des pins, des baraques, des trucs, mais tu vas quand même faire les vagues à la fin. Et donc, c'était un peu la grosse mission. Et je me disais, il faut que je trouve un procédé pour que vraiment, ce truc de l'océan est un personnage à part, il faut que ça existe concrètement dans le dessin. Il ne faut pas que ce soit un traité. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, mais je vais changer d'outil pour l'océan et que j'ai fait à l'aquarelle. Donc, je suis allée me mettre à un autre endroit encore. Et j'ai dessiné à l'aquarelle directement en essayant de recréer ce mouvement de vague que j'avais vu. Et du coup, c'est pour ça que les scènes d'océan, elles sont quand même intégrées dans la page. On voit bien que c'est la même personne qui les a dessinées. Et globalement, ça ne fait pas un copier-coller qu'on est allé caler dans la page. Mais ils bougent différemment. Et je voulais vraiment que l'océan soit vivant. Et je me suis posé les mêmes questions pour la forêt, qui est l'autre aspect des Landes. Il y a les deux. Hein. C'est vraiment pour moi, c'est les pins et l'océan. Et donc, pareil, j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt. Beaucoup. Alors, on pourrait se dire, bah, pourtant, les Landes, franchement, c'est quand même pas la forêt la plus compliquée à dessiner. Hein. C'est quand même des rues de pins à l'infini. Mais en fait, si, il y a quand même une grammaire à saisir dedans. Et voilà. Et quand j'ai lu, pour répondre enfin à cette question, quand j'ai lu le texte de Lola, je me suis dit, ouais, beaucoup de scènes d'océan et de forêt quand même. Hein. Il va falloir vraiment trouver un truc. Et en fait, bah, ça m'a vraiment fait travailler différemment. Et à la fin, ça ressemblait à ce que j'avais en tête. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais c'était comme ça que j'avais envie de le faire. Et j'ai cassé mes habitudes de travail pour faire ça.
Donc, c'est quoi vos habitudes de travail?
Bah, c'est plutôt intérieur. Je ne sors pas énormément de chez moi. Mais là, ça ne marchait pas. On ne peut pas dessiner des espaces comme ça avec des photos. Ni avec des souvenirs, ni avec... il faut y aller, ne serait-ce que pour s'imprégner. Ça peut paraître un peu gnangnan de dire ça. Genre, ah, j'ai besoin que les forêts me parlent et tout. Mais il y a un côté un peu...
Vous a parlé, la forêt?
La forêt ne m'a pas parlé, mais j'écoutais bien. J'avais très, très peur de croiser des chasseurs. Je ne vous cache pas que partir dessiner des heures dans la forêt, en pleine forêt, j'étais pas sereine. Et j'avais envoyé un message à mon mec pour lui dire « Si tu n'as pas de nouvelles d'ici 2 heures, je me suis fait tirer comme un lapin. » Et voilà, j'avais envoyé ma géolocalisation et tout. Quand même. Eh bien oui, parce que c'est une réalité des forêts. Et donc voilà. Mais non, mais de me dire, par exemple, ça fait beaucoup de fois que je raconte cette histoire, mais je trouve que c'est quand même important. Quand on est dans la forêt, dans les Landes, c'est certes une forêt qui est un peu, on pourrait dire, répétitive, et puis qui manque un peu de volume et tout ça. Mais il n'y a pas d'autres forêts où, en plein cœur de la forêt, on entend l'océan. On entend le grondement des vagues quand on est au milieu des arbres. C'est extraordinaire. C'est quand même. Et puis l'odeur de la résine, enfin, c'est quelque chose de très particulier. Et ça, malheureusement, on ne peut pas la rendre dans une BD. C'est deux choses qu'on ne peut pas rendre, c'est le son, l'odeur. Bon, voilà. Donc il faut trouver plein de petites béquilles pour essayer de rendre cette sensation qu'a le personnage d'Hélène, qui est si libre dès qu'elle est dans la forêt. Elle se tient plus pareil. Elle saute par-dessus les troncs, elle s'en fout, elle a peur de rien. Elle est en pleine nuit, mais c'est pas grave, elle a peur de rien, alors qu'elle a l'air d'avoir peur de tout. Mais la nuit, dans la forêt, c'est-à-dire les deux endroits qu'on nous apprend le plus à redouter, et bah raison, elle le sait, bon, pas de problème. Deux fois dans l'histoire, elle va affronter la forêt de nuit toute seule, sans avoir la trouille du tout. Alors, il faut qu'on comprenne en tant que lecteur pourquoi cette forêt, elle est particulière.
Et les surfeurs, vous les avez beaucoup observés aussi, parce que moi, vos dessins de surfeurs m'ont fait vraiment marrer.
Ah, bah merci. Oui, je les ai regardés beaucoup. Au début, je voyais des petits points noirs dans l'eau le matin super tôt. Des phoques et non, et j'y suis allée totalement hors saison, bien sûr, parce que c'est pas possible de se poser pendant des heures pour dessiner ces villes là en été, ça ne sert à rien. Et même en hiver, voilà, si tôt le matin, déjà ils étaient là comme ça dans les vagues. Je me disais, ils ont bien du courage, ces gens, mais c'est oui, j'ai regardé aussi beaucoup. Puis encore une fois, c'était les JO, donc génial, génial pour regarder du surf. Moi, je dors pas trop la nuit, donc c'était parfait.
À quel moment vous avez compris que ce serait votre langage, le dessin?
Ah bah alors ça, quasiment quand j'ai commencé à parler, je pense, hein, parce que on m'a collé des feutres et des feuilles très vite dans les pattes pour avoir la paix et pour qu'on puisse m'emmener partout, dîner chez les copains de mes parents, que j'embête personne. Mettez-moi dans une pièce avec des feuilles et des feutres et vous ne m'entendrez plus. Une petite assiette de frites et je sais pas, c'était évident que c'était ce que j'aimais faire le plus. Voilà. Il y a une joie d'enfant dans le fait d'être en train de dessiner qui m'a jamais quittée depuis mes 3 ans. Voilà. C'est vraiment, j'ai fini par comprendre que c'était ça. Avant, je me disais, mais j'aime parce que c'est comme ça, que c'est mon moment de solitude, c'est un peu comme de la méditation. En fait, pas du tout. C'est pas, je peux tout à fait dessiner avec des gens, ça me va très bien. C'est juste que quand je dessine, quand je vois du papier blanc et des feutres, et enfin des trucs de couleur, idéalement classés par ordre de couleur, alors là, vraiment, j'ai un frisson. Alors, tout est possible, c'est génial, c'est parti. Wouhou, j'ai 3 ans, c'est l'aventure, et place à la magie. C'est que vraiment, c'est physique, c'est chimique. Avoir l'excitation de la page blanche, qui est vraiment le contraire de l'angoisse, quoi. De me dire, ah, une page blanche, c'est parti. Et ça, je pense que c'est une joie. Je pense maintenant, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans, mais maintenant, bon, j'en ai 40 passés. Donc, je peux commencer à dire, je me connais à peu près. Je pense que toute ma vie, j'aurai ça. Voilà. Je pense que tant que mes yeux et mes mains me le permettront, ce sera toujours ma joie numéro 1. Voilà. Et même si je ne veux plus du tout en vivre, même si demain, les BD n'existent plus, même si les gens me jettent mes livres à la face en me disant « c'est de la merde » et que je ne peux plus en vivre, je trouverai un autre moyen de vivre. Mais ça, vraiment, je voudrais que ça continue à être ce que je fais le plus dans la journée. Parce que... Parce que je pense qu'il n'y a que les gens qui dessinent qui peuvent comprendre cette joie-là. Vraiment, je sais, c'est dégueulasse de dire ça, mais vraiment, il y a... le temps n'existe pas. On se dit, oh, dis donc, déjà 22 heures. Ça met en pause toutes les autres émotions qu'on a autour. En ça, on pourrait se dire que c'est un peu comme de la méditation, mais c'est parce que les deux joies combinées, de dessiner et d'inventer des histoires, qui sont... comme ça quand on fait de la BD. Alors à l'oral, vous ne saurez pas ce que je faisais, mais je croisais les doigts. Deux grandes joies combinées ensemble, feu d'artifice de bonheur. C'est moi qui joue à la poupée dans ma tête, et en plus, c'est aussi moi qui dessine le décor et les tout. Voilà, je suis Dieu, je fais tout, et tout est mieux que dans la vraie vie parce que c'est moi qui décide de tout. Comment vous voulez que je fasse autre chose dans la vie? Et en plus. Cerise sur le gâteau, on peut le faire depuis chez soi, en voyant personne et en s'habillant pas. Non, mais c'est génial, c'est vraiment super. Je suis tout le temps en train de bosser parce que je suis toujours en retard. Mais quand je me dis ça suffit, c'est les vacances, au bout de 4 jours, je dessine. Ça ne marche pas du tout en fait. C'est que je peux pas du tout faire autre chose.
Donc il y a de l'enfance dans vos dessins.
Ah ouais, je dessine de la même manière que quand j'avais 3 ans, mais en mieux techniquement. Mais c'est toujours la même voix, c'est toujours la même façon de penser les choses, c'est la même façon de... J'ai gagné en technique, heureusement, parce que voilà. Mais quand je revois ce que je faisais, ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite, je voulais faire exactement la même chose que maintenant, en moins maîtrisée, et je voudrais toujours faire ça encore dans 40 ans. On change pas. De la même manière qu'en fait, on vieillit, la voix change, mais c'est toujours notre voix. On n'est pas stupéfait quand on entend notre voix plus jeune. Elle s'étoffe, quoi. Elle s'abîme un peu aussi. Mais c'est toujours nous. Et ben c'est pareil, le dessin. On change pas de dessin un jour.
Oui, c'est marrant que vous parliez de voix ce soir, en tout cas.
Oui, j'y ai pensé. Je me disais, pas cool de dire ça ce soir, mais...
C'est pas grave.
Elle a des hauts et des bas, la voix, mais ça reste la même. On la reconnaît, voilà.
Et de Joséphine, il y a de Joséphine, quoi qu'il arrive, dans vos livres?
Ah bah oui, de toute façon, il y a de moi dans tout. Donc oui, bien sûr, il y a toujours un peu... d'elle, j'aime toujours... si je devais raconter la même histoire, je la raconterais sûrement pareil, parce qu'en fait, j'aurais toujours envie de la raconter, mais peut-être que elle serait dessinée différemment un peu, ou que ce serait pas exactement la même mise en scène, mais ouais, il y a quand même un gros lien de cousinade, je pense, entre tous mes livres.
Parce que dans ce livre, ce personnage-là qu'on aime beaucoup, cette maman qui a été jeune et puis qui raconte à sa fille comment elle a été jeune, en tout cas, elle en raconte un petit peu,
ouais.
Parce qu'elle est quand même discrète,
ouais.
Questionne aussi sur ce que Joséphine pourrait devenir.
Ah oui, eh ben, c'est marrant parce que quand j'avais arrêté Joséphine, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une BD dont j'ai fait 3 volumes il y a 15 ans.
Et qui vous colle un peu à la peau parce qu'on vous en parle encore.
Non, franchement, là, vous m'en parlez, c'est la première fois depuis...
C'est vrai ?
Ouais.
Non, moi, je suis très contente. Culottée, hein.
En fait, il y a eu l'événement culotté qui fait qu'on parle plus que ça.
Je suis plus vieille que vous, un peu, quand même, aussi.
Oui, non, je ne pense pas, peu importe.
Alors, dites-moi, est-ce que Joséphine pourrait vieillir ?
Eh bien, quand j'avais arrêté Joséphine, j'ai eu un petit membre fantôme pendant quelques mois, de comme quand on coupe une jambe et qu'elle gratte toujours, quoi, où je me disais, ah, mais du coup, j'avais une idée d'histoire que je lui aurais bien donnée à elle,
ouais.
Comme ça se passe toujours quand on a une série, en fait,
ouais.
Où on se dit, ah, oh, j'ai une super idée d'histoire, comment je vais pouvoir la caser dans ma série ? Et je m'étais dit, c'est dommage, parce que certainement qu'il lui serait arrivé plein d'autres trucs plus tard, et je me dis, peut-être qu'un jour, je me ferai un petit aller Joséphine 40 ans après ou un truc comme ça. Et très honnêtement, si un jour j'ai envie, c'est sûr que je le ferai. Voilà. Mais à part ça, j'ai pas de... Je me dis pas, non, c'est fini, adieu, ni ce serait quand même bien de la reprendre. Globalement, je fonctionne pas mal au... Tiens, j'ai envie.
Parce que vous avez dit que vous êtes inspiré par une page blanche. Et quand on lit vos BD, parfois on a l'impression que vous êtes inspiré par le monde autour de vous, tel que vous voyez de votre fenêtre. Sauf que tout d'un coup, les immeubles se mettent à bouger, ils sont en couleur, les fenêtres sont pas complètement bien carrées. On a l'impression que c'est aussi la réalité qui devient dessin.
Là, le dessin est mieux que la réalité, il faut bien le dire. En fait, c'est aussi pour ça. C'est que là où je pense que le dessin, ça reste un truc d'enfant toute la vie, c'est que finalement, on n'a pas totalement abandonné notre rêve de quand on était enfant, qui était que c'est pas possible que ce soit seulement ça, le monde. Moi, cette déception d'enfant, je pense qu'elle m'a jamais quittée. De se dire, mais en fait, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de... C'est ça, en fait. En fait, les immeubles, ils sont gris. Et ce deuil, il est impossible à faire. Et je parlais de ça récemment, je fais que me répéter, c'est l'enfer, les promos. J'ai l'impression que je dis la même chose tout le temps, mais désolée s'il y a des gens qui m'entendent plusieurs fois. Mais par exemple, je me souviens d'un de mes chagrins d'enfance, c'est quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de passage secret. Qu'il n'y avait pas dans les maisons un endroit où on pouvait un jour, peut-être, en cherchant, trouver une trappe où derrière il y avait un passage secret. Et c'était un vrai chagrin. C'est que je me suis dit, non, il n'y a pas, en fait. Derrière le papier peint, il y a du mur, en fait. Et puis, sous mon lit, il n'y aura jamais une trappe, il n'y aura jamais... Et je me souviens avoir cherché des passages secrets dans l'appart de mes parents, une bonne partie de mon enfance. Et je pense que dessiner, c'est ça, en fait. C'est jamais faire le deuil de ça et se dire, OK, il n'y a pas de passage secret. Bon, et ben moi, il y en aura, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'abandonne jamais complètement l'enfance quand on dessine. C'est qu'on se dit, je la dessine... je sais pas, par exemple, là, typiquement, je dessine une ville qui existe vraiment. Moi, j'aurais trouvé ça mieux si telle maison, elle était un peu plus comme ça. Et si les arbres, ils étaient... Ouais, je sais que les arbres, ils sont verts, foncés. Moi, ils vont être un peu bleus. Parce qu'en fait, ce serait cool que les arbres, ils soient un peu bleus. Et en fait, c'est ça, on raconte le réel, mais notre palette à nous, elle est qu'on n'est pas du tout obligé d'être dans le réel. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a pas mal de gens qui pensent que quand on fait de la BD, un de nos objectifs, un peu un rêve de gosse, ce serait de faire un film, une adaptation en film, et le cinéma et tout ça. Mais pas du tout, pas du tout. Le cinéma, c'est du réel. Ça m'intéresse pas du tout de poser une caméra et de filmer du réel. C'est merci, le réel, je l'ai déjà dehors, quoi. Donc, puis je me dirais, mais du coup, c'est des acteurs qui font les gens. Et c'est quelqu'un qui fait les décors. Mais moi, je m'enlève tout ce que j'aime faire. Donc, c'est cool de pouvoir dire... oui, on est un enfant qui fait tout lui-même, en fait.
Et la nuit, c'est difficile à dessiner la nuit?
Alors, c'est difficile parce qu'on ne peut pas être dans le noir. Parce que dans une BD, on ne peut pas être dans le noir, sinon on ne voit rien. Donc, il faut trouver une autre astuce. Et en plus de ça, il faut que ça rende bien une fois que c'est imprimé. Ce qui est un détail technique très peu intéressant. Mais quand on fait une BD, on ne peut pas faire bleu marine non plus. Donc, il faut trouver des combines. Pour se dire, moi, ma nuit à moi, elle est violette et elle est rose et elle est bleu clair. Et non, c'est plutôt cool à dessiner aussi.
Parce qu'on a l'impression que vous aimez ça, dessiner la nuit, c'est marrant.
Ouais.
Quand on lit votre BD, comme vous l'avez dit, il y a deux passages dans ce livre qui se passent pendant la nuit. Et on a l'impression que vous aussi, vous y êtes bien dans cette nuit.
Ouais, puis je pense que je suis envieuse de quelqu'un qui fait ça, parce que moi, je le ferai jamais. Jamais j'irai dans la forêt la nuit, ça c'est sûr. Ou alors, il faudrait que moi aussi, j'ai un gros chien, parce que je crois que ça donne quand même du corps. Sérieusement, je crois qu'avoir un chien, ça change l'espace public, quand même. C'est sûr que c'est pas mes chats qui vont me défendre dans la forêt, ça c'est sûr, je pense qu'ils se tireraient. Voilà. Mais avoir un chien, et même, j'aurais trop peur, c'est le loup absolu d'aller dans la forêt la nuit, on n'y va pas. Et elle y va, alors ouais, du coup, c'est féerique pour moi.
Est-ce que vous avez réussi à caser des clins d'œil qui vous appartiennent de votre univers?
Plein, il y en a partout. Déjà, je vous invite à trouver mes trois chats dans la BD, évidemment. Ça va bien de faire des BD de chiens. Il y a mes trois chats, ils sont là tous. Il y a mon mari, bien sûr. Et puis, oui, il y a plein de trucs. Les jeux auxquels ils jouent à Hôtel, c'est mon jeu préféré. J'en ai mis partout, j'en ai mis dans tous les sens. Et j'ai mis énormément de choses qui ne sont pas des clins d'œil pour les gens, mais qui sont des clins d'œil par rapport à ma maison d'enfance. Alors ça aussi, il y a des tapis, il y a des... Ouais. Que ma sœur a repéré, bien sûr. Mais...
Parce que cette maison, elle est incroyablement remplie quand même. Hein.
Oui. Oui, c'est une maison que je... C'est intéressant de dessiner... En fait, j'ai découvert un job que j'avais complètement sous-estimé. C'est d'être, j'en ai parlé, avec une copine à moi qui est chef déco. Et je lui disais, c'est chaud parce qu'il faut que la maison, on comprenne tout de suite que c'est une maison de famille, qu'il y a plusieurs générations qui y sont passées, qu'on n'y vient pas si souvent que ça, qu'il y a une chambre qui a été la chambre des enfants et qui est devenue une chambre d'adultes. Donc en fait, tout doit avoir du sens dans la déco, il faut qu'on comprenne tout ça. Et elle me disait, eh ben ouais, bienvenue dans mon boulot, t'as vu, c'est dur. Hein. Et c'était ça, c'est qu'il y avait plein de trucs qui me faisaient envie en me disant, ah ouais, je pourrais faire un mur comme ci, comme ça. Mais je me disais, ah, mais ça donne pas les infos que moi je veux donner. Donc en fait, même le décor, il y a un plaisir de dessin, bien sûr, mais le décor, il doit dire tellement de trucs. On doit comprendre que c'est une maison dans laquelle on vient qu'une fois par an, où il reste un peu, il y a un peu des vieux jeux de société de l'enfance. On n'a pas changé beaucoup de meubles, mais au bout d'un moment, on a changé quelques-uns quand même. On a changé la cafetière parce que c'est sympa, la cafetière des années 80, mais on n'en pouvait plus. Enfin, mais en même temps, c'est la cuisine rustique qu'il y avait dans toutes les baraques de cette époque-là, et elle n'a pas changé. En fait, c'était super intéressant de me dire, il faut que la maison, elle donne tous les indices de cette famille, parce que c'est une mue d'une famille, une maison. C'est le reste d'une famille. Il reste tout ce qu'on y a. Il reste les stickers que les enfants ont collés sur le superposé. Et on a beau gratter, ça partira jamais. Donc ça, c'est très réjouissant aussi de faire ça dans les décors.
Le livre démarre par une scène, je le disais tout à l'heure, dans une cuisine. C'est pas anodin quand même.
Bah, c'est le lieu de tout en famille, la cuisine. C'est le lieu où les caractères émergent. Les gens qui supportent pas qu'il y ait quelqu'un dans la cuisine avec eux, comme moi, par exemple, que ça rend très désagréable, tout simplement. Les gens qui font semblant d'aider, mais qui en foutent pas une. Enfin, les caractères se révèlent beaucoup dans une cuisine, notamment au sein d'une famille. Donc je m'étais dit, ça c'était ma certitude, dès que j'ai lu le texte, je me suis dit, comme il fallait qu'on comprenne pas mal de trucs assez tôt dans l'histoire, je me suis dit, ça va commencer par une petite scène de préparation de dîner, hop, comme ça on va mettre toutes les infos.
Et pour finir, ces personnages, la mère de famille, sa fille, la surfeuse bien sûr, les deux frères, ça prend beaucoup de temps de dessiner des personnalités.
Ça prend beaucoup de temps de dessiner, c'est-à-dire
de donner des traits de caractère, la façon dont vous le disiez tout à l'heure, se positionne la maman, son corps, le fait qu'elle ait des taches de rousseur ou des lunettes, les détails physiques,
ouais,
pour raconter les personnalités.
En fait, ça vient à la fin. Ce qui se passe, c'est que moi, je fais un crayonné de cette fameuse mise en scène. Et au début, ils sont très schématisés. Ils ne se ressemblent pas tellement. Ils ne ressemblent pas tellement à ce qu'ils vont être à la fin. Et j'avance dans ma mise en scène. Je dessine toute mon histoire avec les cadrages, les expressions de visage, les dialogues. Tout est là. Et c'est au fur et à mesure de ce document de travail-là qu'ils se mettent à exister petit à petit, petit à petit, petit à petit. Page 50, ils commencent à avoir leur vraie tête. Page 100, je sais comment ils tiennent une tasse de café. Tout y est. Et à la fin, c'est bon, je les ai. Et ça tombe bien, puisque c'est ça que j'ai proposé à Lola, en lui disant, regarde, voilà. Et du coup, bah, elle avait des gens qui avaient une tête, Et tout d'un coup, c'était évident pour moi comment ils sont habillés, comment ils sont coiffés, parce qu'ils existent depuis 200 pages, donc c'est sûr. Et c'est après, une fois que j'ai fait ça, que je commence à faire le vrai dessin. Et c'est très facile à cette étape-là, parce que c'est bon, je les connais. C'est des vraies personnes pour moi, il n'y a plus de doute. Mais c'est les faire vivre, c'est jouer à la poupée avec eux, qui fait que je sais quelle forme ont ces lunettes. C'est vraiment en les faisant vivre que tout le reste découle de ça. Ça se fait pas du tout dans l'autre sens. On se dit pas, alors je dessine, comme je dis souvent, on fait pas un monsieur patate, on se dit pas, il a ça comme yeux, ça comme oreilles, ok, elle parle comme ça et elle se tient comme ça, donc je devine comment elle est coiffée, en fait.
Et ce sera ma dernière question, Pénélope Bagieux. C'est quoi votre déformation professionnelle au quotidien?
Très bonne question. C'est que je ne peux pas lire un livre sans en même temps penser à l'adaptation BD dans ma tête. Dès que je lis un bouquin, je me dis ah, c'est pas mal ça. Et à partir de là, c'est foutu. Je ne lis plus le livre que comme ça. C'est un cauchemar. C'est-à-dire que je peux pas profiter d'un livre sans me dire. Et du coup, quand à un moment il y a un ventre mou dans l'histoire, je me dis ouais, ça va être chiant. Mais ça, il faudra peut-être que je coupe. Je suis dans une pré-adaptation de tout ce que je lis et c'est terrible.
Merci beaucoup.
Merci à vous.